Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour notre chronique du Pays Toulousain. Nous allons continuer, on a dit la semaine dernière qu'on continuait l'aventure de l'histoire toulousaine et nous étions parvenus aux Visigoths. Jean-François, vous me dites si c'est exact?
Bonjour Aline, bonjour à tous. En effet Aline, nous nous sommes quittés la semaine dernière avec ce qu'on appelle le Fédus, c'est-à-dire un traité entre Honorius, donc l'empereur d'Occident, et Valia, donc le roi du peuple Visigoth. Après une errance, après avoir pillé la ville.
Donc il s'installe
en 416.
Il s'installe à Toulouse.
Voilà, donc 418, c'est Théodoric, donc le roi suivant, qui s'installe à Toulouse. Voilà. Comme royaume fédéré.
Oui.
Hein, on n'est pas encore
dans
un royaume indépendant.
Oui. Est-ce qu'il y a un endroit, est-ce que les fouilles ont pu déterminer où tout ça s'est passé, où ils se sont installés, dites-nous-en davantage.
Oui, alors là nous allons faire un bond en avant, on va se placer en 1988-89.
Ah oui, voilà, donc, voilà l'archéologie.
Parce que là, donc, dans le domaine de l'archéologie, il se trouve que l'ancien hôpital Larré ayant déménagé, l'ancien monastère de Notre-Dame du Sac.
Les religieuses de Notre-Dame du Sac, oui.
Voilà, partiellement détruit pour une opération immobilière qui connaît aujourd'hui autour de la place de Bologne, dans l'angle de la place Saint-Pierre actuelle. Et là, les archéologues ont dégagé un bâtiment monumental, enfin les fondations évidemment d'un bâtiment monumental, sans élévation, mais les fondations, et ont pu reconstituer le plan d'un édifice majeur daté du 5e siècle.
Ah oui.
Et donc, même s'il n'y a pas de source et de preuves définitives, absolues, permettant de proclamer qu'il s'agissait bien du palais des rois Visigoths, franchement, on ne voit pas très bien ce que ce bâtiment pourrait être d'autre que ce palais royal.
Oui, compte tenu de son importance.
Compte tenu de son importance, compte tenu
de la distribution, peut-être.
De la distribution des pièces, donc vraiment une ordonnance symétrique avec un corps de bâtiment central, distribuant des ailes, des pièces vraiment monumentales, vraiment à l'échelle d'un palais tel qu'on n'en a retrouvé aucun autre sur le territoire de la France actuelle. Et
alors,
donc
tout à l'heure,
avec une architecture qui vraiment est une architecture palatiale.
Ah oui. Oui, oui.
Donc, au 5e siècle, à part les Visigoths, qui d'autre ? Donc, là, voilà, je sais que les historiens, les archéologues sont très prudents, mais autour de cette table, Aline, on peut se dire qui d'autre pourrait avoir érigé au 5e siècle un tel édifice.
C'est évident, le rapprochement est.
Que les rois Visigoths. Alors, c'est vrai que des Visigoths.
Alors,
à Toulouse,
est-ce que. Les Visigoths arrivent à Toulouse, je reviens un petit peu en arrière, ils ont pillé la ville. Bon, ils arrivent dans une ville qui est exsangue, ils ont tué tout le monde.
Non, ils n'ont pas tué tout le monde. Ils l'ont pillé ou rasé, on ne sait pas exactement. On a le témoignage.
Pour des biens matériels, j'imagine.
Oui,
la population n'a peut-être pas trop souffert.
Voilà, on n'en sait trop
rien.
On n'en sait trop rien, si ce n'est que les archéologues, notamment au niveau du forum, ont trouvé.
Est-ce qu'on a trouvé des nécropoles ?
Des traces d'incendie.
Ah oui.
Qui dateraient à peu près de ce moment-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la ville est exsangue. Alors peut-être que la région, elle, a beaucoup souffert. On a le témoignage d'un préfet de Rome d'origine toulousaine qui nous explique qu'il rentre de Rome. Et alors il fait aussi un texte très intéressant dans lequel il décrit la région entre Narbonne. Et il arrive en bateau
au
port de Narbonne et il chemise. Et là, il se désole, il se lamente.
Oui, parce que la région a été mise à sac. Ouais.
La ville, on sait qu'elle a pu être un peu incendiée ou pillée, rasée, etc. Mais ça, c'est en 413. En 418, les Visigoths font tout de suite de cette ville, donc Théodoric, le roi, une ville capitale.
Oui.
Alors, le rapport entre les Gallo-Romains et les Visigoths.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser.
Voilà. Les historiens pensent que le roi s'installe avec sa cour. et donc plutôt une population wisigothe,
oui.
Mais de, on va dire, d'un niveau
au milieu d'une population très romanisée,
oui,
quand même.
Mais eux-mêmes le sont.
Oui.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que pendant toute cette errance qui a duré près d'un siècle, pas tout à fait, mais dans l'Empire, ils ont eu largement le temps d'apprendre le latin, le grec aussi, beaucoup, puisqu'ils étaient en Orient. Ils sont romanisés, ils ont des mœurs moitié wisigoth, moitié latin. Ils sont bilingues, ils parlent déjà le latin. Et donc, Théodoric, d'après ce qu'on en sait, n'a qu'une envie, c'est vraiment d'installer la population, y compris dans la région, alors hors la ville plutôt paysanne, et d'avoir la paix, c'est-à-dire de pouvoir s'installer
pouvoir
enfin.
Gérer son espace.
Et se mettre finalement, se glisser, si je peux prendre cette image un peu cavalière, se glisser dans les chaussures des Romains, c'est-à-dire les remplacer.
Alors, on a vu
y compris sur le plan. Oui.
On a vu la semaine dernière, quand on a évoqué, ou la semaine précédente, on a évoqué la naissance de la religion chrétienne devenue officielle, et l'arianisme des Wisigoths.
Oui.
Donc, les Wisigoths vont arriver dans une ville qui est quand même largement christianisée. Ils sont ariens. Comment ça se passe là? Ils sont considérés comme hérétiques?
Alors, pour ce qu'on en sait, ils sont considérés comme hérétiques à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il semblerait que le pape de l'époque n'envoie pas d'évêque succéder à Exupère.
Ah oui.
Vous vous rappelez, on a parlé d'Exupère.
Donc, il n'y a pas notamment de guerre ouverte.
Non. C'est-à-dire Exupère décède en 415. Après la razzia de 413, la tradition veut qu'il se soit retiré à Blagnac. Et qu'il soit mort en 415, et la liste épiscopale s'interrompt. C'est-à-dire que jusqu'à l'arrivée des Francs, en 507-508, on ne connaît pas d'évêque nicéen, hein, catholique, on dirait aujourd'hui, envoyé par le pape à Toulouse.
Ah oui, donc
ce qui pourrait vouloir dire que Théodoric
on
est arrivé
les Wisigoths tranquilles,
avec
finalement.
Son clergé arien, tranquille, pas de conflit. Et Théodoric, pour ce qu'on en sait, et notamment par les témoignages, enfin, il y a quand même des témoignages assez concordants par rapport à ce premier roi installé à Toulouse, c'est que ce n'est pas un grand religieux, pratiquant, etc., qui veut la paix. Et que donc, en tous les cas, dans ces premières années, premières décennies, puisque Théodoric Ier a un long règne, il n'y a pas de heurte. En tous les cas, on n'en a pas la trace, ni textuelle, ni matérielle.
Oui, donc il y a une vie en bonne entente.
Une vie en bonne entente.
Personne ne veut faire de tort à l'autre.
C'est ce qui transparaît dans les grandes lignes au niveau des sources.
Alors, est-ce que la ville est-ce qu'on a des éléments pour dire si la ville était prospère?
Oui, on a des éléments, qui témoignent du fait que, vous vous rappelez, on avait dit qu'à la fin du IVe siècle, enfin la deuxième moitié du IVe siècle, elle est retrouvée, peut-être pas l'opulence des premiers temps de la Pax Romana, mais dans un contexte d'un empire quand même assez bousculé et finissant, à Toulouse, plutôt une situation où le commerce
qui fonctionnait
bien. Vous vous rappelez, on avait parlé de
l'habitat,
etc.
L'activité, oui.
Et il semblerait qu'après l'intermède donc du pillage,
oui,
et du passage des Vandales, le fait de devenir une capitale donne à la ville une certaine prospérité, parce que qui dit capitale dit une administration,
oui, des moyens,
un commerce,
de gouvernement, de gouvernance.
Voilà, une gouvernance, des ambassades, hein, d'autres régions, d'autres. Encore une fois, l'empire d'Occident s'effondre. Et donc, il y a des ambassades. Enfin, Sidoine Apollinaire, donc, il en était le témoin, qui est un gallo-romain vraiment politique. Au début, il voit les Wisigoths d'un mauvais œil, mais après, il fréquente le palais de Toulouse. Malheureusement, il n'en donne pas de description, ce qui aurait pu nous aider pour savoir si ce qui était retrouvé en 88-89 était bien le palais, mais en tous les cas. Et il décrit une ville très prospère, une capitale, alors qui n'est pas à la dimension de Rome, mais une ville prospère et une ville de cour, c'est-à-dire quand même avec j'y reviens, des gens bilingues.
Une hiérarchie sociale.
Des moyens.
Oui.
Voilà, des moyens sans doute aussi pour entretenir des remparts, un pont. On peut dire un mot peut-être de Sainte-Lévande, de la reine Pédoc, le pont de la reine Pédoc.
Oui.
Un mot quand même, mais parce que même si c'est une Lévande, on peut imaginer quand même qu'une ville capitale, si le pont avait été endommagé, que ce soit par des inondations ou par les raids vandales ou je ne sais quoi, les Visigoths avaient quand même intérêt à ce qu'il y ait un pont pour traverser la Garonne, d'autant que assez rapidement, enfin petit à petit, ils ont occupé un territoire plus vaste que ce qui leur avait été octroyé par le Fédus de 418. Vous voyez ? Donc, peu de traces matérielles dans cette ville aujourd'hui, mis à part peut-être les fondations d'un palais.
Et peut-être l'église de la Dorade.
L'église de la Dorade, dont je pense qu'il faudra, à laquelle il faudra peut-être consacrer une émission.
Oui, je le pense, oui. D'autant que des travaux très importants ont été faits.
Oui, et puis même récemment, Aline, des chercheurs, y compris internationaux, c'est très intéressant, ont émis de nouvelles hypothèses. Et je pense que ça vaudra un petit peu la peine de s'y attarder. Parce que cet édifice va positionner Toulouse, là encore, d'un point de vue matériel, au-delà du palais, et pour des, j'allais dire, des années, même des siècles, hein, puisque cette église primitive de la Dorade n'a été détruite qu'à la fin du XVIIIe siècle, et donc pendant des siècles, les Toulousains et les visiteurs l'ont eu sous les yeux. Ils se sont beaucoup questionnés sur cet édifice. Aujourd'hui, vu les décennies de recherche, il y a quand même des travaux qui permettent d'élargir le spectre des hypothèses. Et je pense que ça pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Enfin, Aline, c'est ce que je vous propose.
D'une communication ou d'un dialogue avec les historiens sachant sur ce très très bel édifice. Donc, les Visigoths s'installent à Toulouse. Ils vont rester combien de temps ?
Alors, ils vont rester jusqu'à 507, jusqu'à la bataille de Vouillé, Clovis.
Oui.
Le baptême de Clovis, on y reviendra. Donc, 507, c'est-à-dire pratiquement un siècle. Mais on y reviendra, là aussi, lors de la prochaine séquence, puisqu'il y aura un grand tournant dans les années 460.
Très bien.
Et notamment sur la question religieuse.
Ah.
Avec des rois, et surtout un roi dont nous reparlerons, qui vraiment va mettre le bazar, pour parler vulgairement. Et
bon,
Aline,
écoutez,
non, je vous propose d'arrêter peut-être vers 450, un moment de paix et de bonne entente entre des gallo-romains, chrétiens, anciens et des visigoths ariens. Et nous en reparlerons la prochaine fois.
Et bien voilà. Merci beaucoup Jean-François.
À bientôt Aline.
Et à très vite pour tous nos auditeurs.